La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour et entrez donc dans une danse des mots qui aujourd'hui va danser au rythme du jazz, qui tombe bien puisque il y a très peu de jours on fêtait le centenaire de l'arrivée du jazz en France. Je ne sais pas si c'est parvenu jusqu'à vos oreilles, mais le 12 février 1918, il y avait le premier concert de jazz. La guerre n'était pas encore terminée, les Américains affluaient et le grand orchestre de James Rees Europe avait été invité à faire un concert dans un théâtre de Nantes, le théâtre Gralin. Eh bien, 100 ans après, le 12 février 2018, un nouveau concert a commémoré ce premier concert qui avait 100 ans en essayant de reprendre un répertoire qui en était proche. Eh bien, c'est dans cet écho que j'ai vu la publication d'un excellent livre de Patrice Blanc-Francard dans la série Les dictionnaires amoureux. Il sort chez Plon, le dictionnaire amoureux du jazz, et je le remercie par avance de venir nous parler tout à la fois du jazz et de ses amours. Avec ce docteur jazz Patrice Blanc-Francard, nous voilà de plein pied dans le sujet. On commence bien sûr avec cet écho de la Nouvelle-Orléans. Dans votre dictionnaire, bien entendu, on a des choix extrêmement subjectifs. C'est le cas pour tous les dictionnaires amoureux. Donc tous les gens qui ont marqué ne sont pas présents dans votre dictionnaire, mais il y a ceux qui vous ont le plus marqué. Et puis il y a aussi quelques notions, un peu d'histoire du jazz. Et il est vrai que l'histoire du jazz, très souvent, se confond un peu avec sa géographie. Par exemple, quand on parle du premier jazz, la plupart du temps, on parle de la Nouvelle-Orléans. À votre avis, on a évoqué cette notion New Orleans ou Nouvelle-Orléans très tôt?
Mais très tôt, pour tous ceux qui ont pris l'histoire du jazz dans la manière dont elle fonctionne, en fait, parce que c'est à la Nouvelle-Orléans que se passent les choses, quand même, même avant l'enregistrement. Déjà, dès la fin du 19e siècle, il y a déjà largement une scène à la Nouvelle-Orléans, et spécialement dans ce quartier qu'on appelait Storyville, qui était le fameux district rouge, avec...
pas loin du French Quarter, qui était le quartier malfamé.
Oui, le quartier dit d'amusement, où les bons bourgeois de Louisianais et ailleurs, d'ailleurs, allaient se rencontrer dans les maisons de passe, où, évidemment, les jazzmen étaient les rois, parce qu'ils faisaient venir les clients. Et puis, c'était toujours amusant d'aller voir une musique qui, à l'époque, qui était quand même l'équivalent du hip-hop aujourd'hui. C'était pas du tout du vieux jazz, c'était du jazz nouveau, et souvent, d'ailleurs, pas fait que par des Noirs. Il y avait une grande communauté italienne, à la Nouvelle-Orléans, et notamment sicilienne. Il y avait une grosse immigration qui venait de Palerme 20 ans avant. Et notamment, le premier disque de jazz a été enregistré, non pas par des Noirs, mais par des Blancs.
Oui, absolument.
Livery Stable Blues en 1917. D'ailleurs, il y a exactement 101 ans.
C'est amusant ce que vous dites. Vous mentionnez les Italiens. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'Irlandais aussi, beaucoup de Juifs. En fait, il y avait les Noirs. Ceux qui n'étaient pas protestants, en fait, qui se retrouvaient dans cette musique. Et il est certain que la Nouvelle-Orléans, qui était un pays, ou une région en tout cas, catholique entre guillemets, avec un catholicisme un petit peu particulier, mais c'était une soupape par rapport à cette Amérique puritaine.
Puis il y avait aussi tous les rites vaudous de Congo Square, qui, il faut pas oublier ça, c'est un melting pot absolument génial, mais à la sauce cajun, quoi.
Alors, cette musique de la Nouvelle-Orléans, elle est encore très populaire aujourd'hui. Elle a eu plusieurs noms. On l'a appelée de diverses façons. On l'a appelée, par exemple, Dixie ou Dixieland.
Oui, mais j'aime pas ce mot-là, parce que, en quelque sorte, il y a eu à un moment donné, quand j'ai commencé à aimer le jazz dans les années années 50, des gens, alors vous, il fallait aimer le jazz Dixieland et le reste c'était un truc modernistique par des gens qui connaissaient
rien. C'est parce qu'il y a toujours eu des puristes dans le jazz. Les gens s'empoignent terrible en disant si tu aimes ça, tu n'es pas un vrai amateur, si tu aimes ça, tu n'as rien compris, si tu n'aimes pas ça, c'est pire encore.
Mais moi j'ai toujours adoré le jazz du début, je suis un fan de King Oliver et de Chimes Blues qui était le premier solo de Armstrong qui jouait deuxième trompette à ce moment, plutôt deuxième cornet. Donc j'ai jamais cessé d'écouter du jazz dit Nouvelle-Orléans. D'ailleurs, dont un des meilleurs exemples est ce qu'on vient d'écouter, parce que Jelly Roll Morton, enregistré à Chicago en 26, il était déjà considéré comme vieux jeu à cette époque-là. Donc il menait un combat, disons, d'arrière-garde.
Mais l'arrière-garde a commencé extrêmement tôt, en fait. C'est ça qui est bien avec le jazz. Et ce qui m'intéressait aussi dans ce mot de Dixieland, qui, vous avez tout à fait raison, c'est à désigner la musique de la Nouvelle-Orléans quand ça a été un revival, pratiquement. Quand on y est revenu avec ce souvenir de cette Nouvelle-Orléans francophone, puisque oui. Dixieland, c'est Dixie, et Dixie parce que sur les pièces de 10 dollars, il y avait marqué en français 10. Et c'est de là que ça vient, en fait.
Ah, j'ignorais totalement, Dixieland. Hein, intéressant. Mais en France, si on retrouve effectivement cette époque, c'est-à-dire l'après-guerre, pas oublier que quand en 1949 Charles Delaunay a organisé le premier grand concert de l'après-guerre, il voulait faire venir des musiciens modernes. Il s'est rendu compte que il y avait trop de musiciens modernes, que l'équilibre n'était pas respecté. Donc, il a demandé à Sidney Bechet de venir. Mais lequel Sidney Bechet était sous le coup d'un mandat, non pas d'un mandat d'arrêt, mais d'une disposition qui l'empêchait de revenir en France.
Oui, il avait le pistolet facile.
Il l'a eu dans les années 20. Oui, il a blessé des gens d'ailleurs en tirant sur son banjoïste. Mais ça se passait à Pigalle.
C'était à Pigalle. Ouais. C'était à Pigalle. Ouais.
Et donc c'était très compliqué de faire revenir Sidney Bechet. Mais quand il est revenu, il a déclenché un mouvement absolument extraordinaire qu'on connaît aujourd'hui, puisque le Bechet français a connu des tubes que les plus grands accordéonistes auraient énormément aimé avoir. Il était aussi connu qu'Yvette Horner quand même. À un certain moment, et avec une musique quand même radicalement différente.
Et au même moment, on avait le bebop qui débarquait en France et que les Français et les Françaises adoraient.
T'as pas oublié de monnaie, faire des bops, pas de monnaie que tout le monde connaît. Pas de monnaie, tout est perdu, je reconnais. Faire pas de donne, t'as beau, t'as pas oublié de monnaie, faire des bops, pas de monnaie que tout le monde connaît. Pas de monnaie, tout est perdu, sans de monnaie, on vous dit, t'as l'idée. Tiens, la monnaie, tu prends la monnaie, ça ne te fait pas de l'eau. Qu'est-ce qu'on vient d'attaquer, en anthropologie, tu vas devenir un peu logique. Si tu touches, tu perds monnaie, faire des bops, pas de monnaie que tout le monde connaît. Pas de monnaie, tout est perdu, allez, bon amour, vous laissez là dans ton monnaie.
Alors, on sait qui c'est, le père du bop avec son bonnet, c'est probablement Monk, mais c'est Dizzy Gillespie qu'on entend ici à la trompette, et puis Christian Legrand, Mimi Perrin, toutes ces voix des doubles six.
Ah, que j'ai absolument adoré, je me souviens, je crois que le LP, comme on dit, c'est à l'époque, le vinyle est sorti en 64, le 33 tours. Et c'était incroyable, parce que Dizzy joue formidablement là-dedans, mais les autres, c'était pas... Avec Mimi Perrin et toute la bande, il y avait aussi toute l'atmosphère science-fiction que j'adorais aussi à l'époque. Et puis l'humour quand même, les textes. T'as pas oublié ton bonnet, perds du bonnet, pas le bonnet que tout le monde connaît. Pas le bonnet, tout est perdu. Sans le bonnet envoûté, tu vas perdre tes idées.
Oui, il y a un vrai phrasé. Il y a un vrai phrasé en français qui imite en fait les accentuations. C'est ça qui est bien, parce que c'est un tour de force quand même de réussir.
C'est génial. Les toutis des trompettes sont là et le double six sont un groupe fantastique.
Ouais. Alors, les double six donc illustrent le bebop. Qu'est-ce que ça vous évoque ce mot? À votre avis, d'où ça vient? Qu'est-ce que ça désigne en tout cas, Patrice Blanc-Francard?
Ah ben d'abord, ça, je ne sais pas ce que ça désigne, mais ça s'entend. Bebop, on sait, hey, ça, c'est quelque chose, immédiatement les doigts commencent à faire ça, et ça dit une musique qui refuse les conventions. Voilà ce que ça dit pour moi.
Et c'est né quand?
Ah ben forcément, c'est né... on va dire 40-41, et c'est né en plus une époque où on n'a presque pas de documentation, parce qu'il y avait une grève des musiciens. Et donc, on ne sait pas, c'est né au Minton, quelque part.
Minton, c'était un petit club de Harlem.
Qui était en dessous d'un hôtel, au nord de Harlem. Et là, Thelonious Monk était le pianiste local. Il était à Caen. Il y avait aussi Kenny Clarke qui venait jouer de la batterie. Il y avait énormément de musiciens. Charlie Christian, par exemple, le guitariste. Eh ben, il jouait pas qu'avec Benny Goodman. Il venait là parce que c'était. Il avait ce phrasé là. C'est une école du jazz qui est née là, à Wilmington.
Et vous avez tout à fait raison, le bebop, ça sonne, c'est une expression qui sonne, et après le bebop, à partir des années 50, peut-être même du milieu des années 50, on a parlé du hard bop. Alors, c'est toujours un petit peu asséchant de mettre des catégories comme ça, mais en même temps, ça aide à s'orienter. Qu'est-ce qu'on appelle le hard bop?
Bah, c'est les Jazz Messengers pour moi, les Horace Silver, les Jazz Messengers... Cooking at the Continental, puis l'incontournable Bluesmart. Je me souviens, mon père était ingénieur du son et il m'avait emmené voir un concert. Je devais avoir j'étais ado et je voyais ce type-là, Art Blakey, et il jouait comme des fous quand même.
Avec sa sonorité qu'on appelait le sac à charbon.
Ah ouais, oui, le sac à charbon, c'était le pressing roll. C'est-à-dire que c'est un truc qui tenait du batteur Sidney Catlett. Sidney Catlett avait dit qu'il admirait totalement, qu'il avait 15 ans de plus que lui. Il lui disait, quand t'es emmerdé, eh ben, tu roules. Et Dieu sait s'il l'a fait à la fin. C'était sa signature. À la fin de chaque solo, on entendait coup de cymbale et c'était parti pour le solo suivant.
Ouais, c'est sûr que ça ponctuait bien. Alors, ce qui est étonnant de voir, c'est comment cette musique évolue à une vitesse extraordinaire, puisqu'on a parlé du bebop, il naît au début des années 40, il fleurit à la fin des années 40, début des années 50, le hard bop c'est juste après, et en même temps, si on se rappelle par exemple ce qu'on appelle les sessions Capitol de 1948 avec Gil Evans et Miles Davis, ce qui est paru...
Birth of the Cool.
C'est ça, ce qui est paru de ces enregistrements avait le titre Birth of the Cool. Et donc le cool, ce qu'on appelle le cool, naît aussi à l'extrême fin des années 40. Alors, oui. Qu'est-ce qu'on appelle le cool?
C'est une sorte de, comment dirais-je, quelque chose qui appartient à la fois à la culture des musiciens blancs et des musiciens noirs, qui appartient à la fois à l'école de la West Coast et à l'école de la East Coast de New York. Et c'était extraordinaire que Miles ait été justement dès cette époque où il était encore très très jeune et il n'était pas encore sorti de sa gang véritablement.
Absolument, il est né en 27, ouais. Donc en 48 il a 21 ans.
Il a 21 ans et il décide ses parents d'aller à l'école à New York. En fait, il veut absolument jouer avec Charlie Parker, ce qu'il réussira à faire. Et ensuite, il va faire cet album merveilleux, justement avec des gens comme Jerry Mulligan, avec, je crois, Steve Lacy a participé à ça, normalement, je me rappelle plus très bien. Mais en tout cas, Gil Evans était un des arrangeurs, John Lewis était là, John Carisi aussi. Donc c'était vraiment totalement novateur. À l'époque, il fallait qu'on soit ça, et Birth of the Cool a vraiment créé un style.
Oui, avec le lunaire, l'iconite, qu'on entend dans un des plus beaux morceaux composés donc par Gil Evans, qui s'appelle Moonbeams. Patrice Blanc-Francard, ce qu'on sent bien d'ailleurs dans votre livre, et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment les musiciens se jaugent les uns les autres. Ils se jaugent eux-mêmes, mais ils se donnent à écouter. Et bien sûr, quand ils s'aiment bien, ils se donnent des titres. Alors, on a Ellington qui est un duc, on a Bézi qui est un comte. Ça remonte loin aussi.
Je pense que ça remonte au fait que le jazz n'a pas toujours été une musique pour la tête, mais une musique pour la danse, et qu'il fallait des titres un petit peu ronflants, et qu'à l'époque on était encore avec les rois et les reines, un duc et un comte, ça c'était pas n'importe qui.
Bah surtout chez les Noirs américains des années 30, puisque c'est à cette période qu'on commence à s'appeler Earl Hines ou Count Basie.
Oui, et en fait
Earl, c'est le chevalier quoi.
Count Basie, lui qui vient de Kansas City et qui est un petit pianiste qui donne scout en arrivant à New York se trouve une reconnaissance absolument extraordinaire. Et bien le titre est extraordinaire en soi. On est à l'époque du pré-marketing, la pub vient de se vendre en fait, on est à l'âge d'or de ça, donc il faut à un certain moment quelque chose qui claque pour imposer un nom sur ce qui devient un marché.
Oui, et puis ça montre bien que after hours, comme on disait, c'est-à-dire une fois que les spectateurs peut-être sont partis, on continue à jouer pour justement s'évaluer les uns les autres.
Oui,
quand
c'est
on
clair.
Est, quand on est entre soi, quoi.
Il y a eu cette fameuse anecdote de Coleman Hawkins et de Sidney Bechet. Coleman Hawkins avait dit à un certain moment, à la fin des années 20, que les gars qui venaient de la Nouvelle-Orléans valaient pas tripette et que les seuls qui savent jouer du jazz étaient à New York. Et Bechet l'a très mal pris. Donc il y a eu cette espèce de bataille de musiciens organisée dans un club new-yorkais. Et Bechet a gagné largement. Et donc Coleman Hawkins était très fâché. Il a mis son sax dans la boîte et il a voulu partir. Mais Bechet l'a suivi en jouant du soprano dans les rues à 6h du matin. Il a réveillé le quartier entier et c'est une histoire formidable quoi. J'aime beaucoup ce genre d'histoire de musicien.
Alors il y a un grand pas de Sidney Bechet à Herbie Hancock, mais on va le franchir quand même. C'est ce qu'on appelle un climat quand même. Herbie Hancock avec Maiden Voyage, ce voyage inaugural qui inaugure d'un point de vue harmonique, on n'avait jamais joué des accords comme ça auparavant.
Non, mais on n'avait non plus jamais accompagné un pianiste ou un saxophoniste avec un tel talent. Et Tony Williams, pour moi, est plus qu'un batteur.
Tony Williams, c'est le batteur, oui.
C'est un conteur de la batterie. C'est un gars qui raconte une histoire en permanence. Et Herbie n'a jamais cessé. Ça, c'était le jeune Herbie Hancock. Il a, à l'époque, Maiden Voyage doit être son troisième album, si j'ai bonne mémoire. Il y a Taking Off, il y a ensuite Cantaloupe Island, et il y a ça. Et à l'époque, j'étais fou de parce que c'était quand même la rythmique de Miles, quand même. Il faut bien voir là-dessus.
Mais là, le trompettiste, c'est Freddie Hubbard, qui
se débrouille bien.
Qui se débrouille, oui, ça, c'est sûr. Il a un son absolument magnifique. Alors, dans votre dictionnaire amoureux du jazz, Patrice Blanc-Francard, il y a surtout donc des noms de personnes, mais aussi un certain nombre de notions, et des notions vraiment, notions clés, mais qu'il est un peu difficile d'expliquer. Hein. Par exemple, si je vous dis Blue Note, est-ce que vous sauriez, et c'est vraiment Blue Note et swing, on peut dire que c'est un peu les mamelles du jazz. Hein. Alors, c'est quoi la Blue Note?
Alors, il faudrait être musicien pour vous le dire. Enfin, c'est une façon de faire bouger une note, pas exactement d'un demi-ton, mais d'un quart de ton, pour lui donner une inflexion qui va être très différente, qui va vous faire passer presque de majeur en mineur. Et en fait, on retrouve ça. Moi, je suis intéressé par toutes les musiques. J'ai beaucoup écouté les musiques des griots du Niger, et notamment de ce qu'on appelle la voix blanche, curieusement, parce qu'il y a une voix blanche et une voix noire, et quand vous entendez les gars jouer sur ce luth à je crois qu'il a trois cordes ou un truc comme ça, vous entendez Johnny Hooker, et là la Blue Note, vous l'entendez
tout à fait. Ouais, sur les Gambri, on est quand même très proche du blues, ça c'est certain. Voilà pour la Blue Note. Et si je vous demande de nous dire ce que c'est que le swing, on avait posé la question à la Fitzgerald pendant une interview célèbre, et elle avait bredouillé en disant le swing,
c'est quand vous pouvez pas vous empêcher de taper du pied en faisant quelque chose, ça swing. Je suis incapable de dire ce que c'est que le swing, mais je suis à peu près capable de vous dire si ça swing ou si ça swing pas.
En même temps, le swing c'est pas la Blue Note, mais ça aussi c'est quelque chose qui est entre deux. C'est quand on laisse, quand on allonge un peu un temps, une barre de mesure pour récupérer ça. C'est swing, ça veut dire balançoire, et c'est vraiment cet équilibre qui se cherche constamment.
Oui, mais c'est un équilibre qui pulse, et c'est justement pas statique. Et c'est ça qui est génial dans le swing. Je sais que Duke Ellington avait une définition du swing absolument formidable, mais elle ne revient pas à ma mémoire maintenant. Donc je vous dirai peut-être un jour.
Ouais, il y a un titre quand même célèbre, It Don't Mean a Thing
If It's Got a Swing.
Ouais,
c'est-à-dire que got a swing.
Si t'as pas de swing, ça veut
oublie,
rien dire du tout.
Oublie. Mon gars.
Alors, on parle de jazz, Patrice Blanc-Francard, à la faveur de la parution de votre dictionnaire amoureux. Le mot de jazz, lui aussi, de temps en temps, il a suscité la polémique, et à toute une période, les gens, ils voulaient plus étiqueter leur musique. Ça a été parfois l'époque de ce qu'on a appelé le jazz libre, le free jazz, que certains musiciens voulaient pas appeler free jazz, donc ils disaient new thing. Enfin, il y avait cette incertitude, on voulait pas assigner cette musique à un étiquetage trop restrictif.
Oui, même avant le free, un des musiciens qui me touche le plus, et d'ailleurs j'ai écrit à son sujet dans ce livre, c'est Rahsaan Roland Kirk, et il avait dit great classical black music. Il voulait pas appeler ça jazz, parce qu'il faut pas oublier ce que ça veut dire pour les musiciens américains, pour les Américains. Tout jazz, J-A-2-S, c'est un truc d'argot du début du siècle pour dire copuler, on va dire, pour parler
oui, c'est un mot très familier.
Plus que familier.
Oui, argotique. Oui.
Et donc, à un moment donné, les musiciens savaient qu'ils étaient en train de créer quelque chose de fondamental et de grand, et ils voulaient pas que ça soit réduit à cette dimension-là. Donc, on peut pas leur donner complètement tort.
Oui, tout à fait. Et cette idée de great black music, elle a été reprise, par exemple, par les improvisateurs de Chicago et
la ACM,
cette grande association, justement, pour la défense de la musique improvisée.
Bye.
Alors, on a beaucoup avancé dans l'histoire du jazz. Qu'est-ce qu'il y a au-delà du free jazz, justement? Parce qu'on a l'impression que le free jazz a été un petit peu sans descendance.
Je pense pas. En fait, ça a été un peu une époque. Il y a tellement de choses dans le free jazz. Est-ce qu'on va dire que le Coltrane de 1900, juste avant sa mort, Interstellar Space est un truc de free? Nous, on a été avec des gens comme Michel Lebrissy, Constantin, des grands défenseurs du free jazz à l'époque de Jazzod dans ces années-là. Mais je crois qu'il y a aujourd'hui des musiciens qui se réclament, qui sont en train de relire avec une grande ferveur la musique qu'ont fait Albert Ayler ou Pharoah Sanders. Et récemment, j'ai été voir des musiciens vraiment exceptionnels. Kamasi Washington, par exemple.
Bah, c'est l'une des grandes voix d'aujourd'hui, oui. Ça, c'est sûr.
Et Shabaka Hastings.
Ouais. Eh ben, on va en écouter un extrait, justement, Patrice Blanc-Francard. Magnifique Joyce, très bien joué avec un timbre de saxophone quand même merveilleux et quand même très bien enregistré. Il y a beaucoup de choses, Patrice Blanc-Francard, dont on n'a pas eu le temps de parler. On peut se terminer avec l'évocation de quelques lieux mythiques quand même. Est-ce que vous vous souvenez du premier club dans lequel vous êtes descendu?
Je pense que c'était à la Huchette.
La Huchette à la fin des années 60, à l'époque où Keith Jarrett
inconnu. Non, à la fin des années 50.
Ah bon, parce qu'il y a eu beaucoup de choses à la Huchette.
Oui, il y a eu beaucoup de choses. Mais à l'époque, le tout premier, c'était le Baxter. C'était un trou dans le mur.
Ah, je ne connais pas le Baxter.
Ouais, c'était pour les. Et je raconte un peu l'anecdote. Là, c'est quand on avait un ami qui jouait du jazz. Mon frère avait 2 ans de moins que moi, et ce gars jouait du trombone. Il était notre idole. Il nous avait emmené un jour sur son scooter à 300 casques, évidemment, à cette époque-là. Et donc, je raconte l'anecdote dans le bouquin. Ça, c'était le Baxter, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, je crois.
Eh bien, merci beaucoup, Patrice Blanc-Francard, d'être venu avec votre dictionnaire amoureux du jazz, dont je recommande chaudement la lecture. Vous pouvez même l'offrir, ça fait un beau cadeau. C'est paru chez Plon et c'est un dictionnaire qui ne traite pas de tout, mais qui traite de tout ce qu'il y a dedans avec beaucoup d'amour. Merci bien d'avoir été avec nous dans cette danse des mots, une émission proposée par le réseau Canopé et par RFI, Véronique Durand, Lucie Bouteloup, Yvan Amard.